Alors, dis-moi voir ce que tu veux me faire dire.
Dans les années 70, on a un renouveau du folk, et les gens comme toi, qui sont des pionniers, avec qui vous avez appris? Comment ça s'est conservé finalement depuis la guerre 14 jusqu'en 1970, où c'est devenu une mode avec ces disques Cézanne, qu'on achetait, qu'on a découvert, qu'on a aimé? Comment toi tu as pu récupérer cet héritage qui finalement n'était pas perdu?
Il n'y a jamais de pionnier total. On est toujours l'enfant de quelqu'un d'autre. À mon avis, c'est passé pour le folk chez nous, ce qui se passe toujours. J'ai tout hérité de mon copain Roger Pierron, moi et tous mes copains tirolins. C'était le pivot de toutes nos connaissances. Lui-même avait été largement formé par Pierre Panis. On le retrouve encore aujourd'hui. Et par quelques lectures aussi, dont celle de Georges Sand, Lenel de la Salle et autres. C'est les gens qu'on n'a pas connus en direct, mais dont les textes nous ont portés, qui eux-mêmes avaient été sollicités par d'autres auparavant. C'est la grande chaîne. La chaîne, par exemple, vers 1820 de tout le régionalisme, dans le Cher comme dans l'Indre, a été un moment important, avec des Jean Baffier, des Hugues Lapeyre et autres, qu'on a quelquefois dénigré, nous, hein, Hugues Lapeyre. On l'a traîné plus bas que terre, parce que Roger disait que, nous disait, et nous, jeunes, on voulait bien le croire, que c'était une vision un peu intellectuelle de la paysannerie. Il est vrai que lui, étant fils de paysan, il n'a pas ressenti les choses comme d'autres l'ont fait. Il y avait une dimension personnelle. Il était vraiment de la tribu, si j'ose dire, et donc il pouvait pas voir les choses comme d'autres personnes intellectuelles qui ont fait des études et qui viennent là un peu du dessus, si tu veux. Lui, il était dedans. Ceci dit, avec le temps qui passe, je m'aperçois qu'il avait fait, lui aussi, des erreurs, pour ne pas dire des conneries, et que certaines visions qu'il avait, je pense à Hugues Lapeyre, quelquefois même de l'ami Pierre Panis, eh ben, je trouve qu'il exagérait aujourd'hui. Je trouve qu'il exagérait. Je me fais mon opinion moi-même et je vois bien à travers ce que j'ai acquis pendant une cinquantaine d'années qu'il avait lui-même ses erreurs. Mais il avait des espèces de visions fulgurantes comme ça, dues à mon avis à sa sensibilité, à cette origine paysanne, qui fait que, et d'autres que moi le reconnaissent, un garçon comme Daniel Bernard, qui est un peu notre personnage phare de l'ethnographie berrichonne, il tarit pas d'éloges sur Roger, sur la manière de faire. Alors, tu me demandais donc comment toutes ces choses-là s'étaient emboîtées. Je suis remonté à l'envers, mais on pourrait repartir dans l'autre sens. On peut quand même dire, et le fameux Daniel Bernard dont je viens de te parler l'a écrit, que Georges Sand était une ethnographe. Quand on fait une lecture moins littéraire et qu'on regarde tous les détails de phrases, c'est évident, évident qu'elle était une ethnographe et une bonne ethnographe. Elle-même ayant été marquée par les Normands, par les Bretons, et peut-être encore quelques-uns d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Et hier, j'ai relu les Maîtres sonneurs pour la randonnée, puis comme on a l'expo, je cherche des trucs sur les enfants, donc j'ai relu La Petite Fadette, et dans la préface de La Petite Fadette, elle a des condensés des phrases. Je veux les écrire, et je voulais les mettre sur ma voiture. Pendant un moment, je mettais des trucs sur ma voiture, ça faisait un espèce de chronique, tu vois, dans la rue, puis je l'ai plus refait après. J'avais plus la même voiture. Mais elle dit des choses, elle a tout pigé, hein. Et rien n'a changé, au bout du compte, rien n'a changé. Les Maîtres sonneurs, l'autre jour, on l'a fait, chaque coin du chemin, je sais pas s'ils parlent aux autres, mais moi qui le connais bien, puis qui le relis, je crois que c'est la 12e fois que je le relis. Tout, à chaque fois que je le relis, je retrouve des expressions, des manières de construire la phrase, des tournures et tout ça, qui sont... Alors, c'est très curieux, parce qu'on a dit qu'elle avait inventé une langue nouvelle. C'est un peu ça, sans rien renier, parce que en même temps, quand je lis, j'entends parler des gens, encore quelques personnes aujourd'hui, de cette façon-là, quoi. C'est difficile à exprimer, mais elle a essayé de faire, elle le dit elle-même, ce joint entre le parler, je dirais, normal et le parler des paysans d'ici. Mais en même temps, elle a trouvé quelque chose qui ressemble à l'un et à l'autre sans jamais copier l'un ou l'autre. C'est une troisième chose qu'elle fait, à mon sens. Et l'autre jour, je me suis fait avoir les lettres de Sylvain Bonnat. Elle écrit un bouquin à la place du paysan. Mais j'ai toujours cru que c'était un paysan lettré qui avait écrit, si tu veux. C'est tellement juste au point de vue de la psychologie, des mots. C'est tellement juste. Et puis un jour, je parle de ça à une de mes copines qui est une Sandienne reconnue. Elle me dit, mais non, Mick, non, non. C'est Georges Sand qui l'a écrit. C'est elle qui parle. Je m'étais fait piéger, quoi. Je m'étais fait piéger bien comme il faut. C'est une sacrée bonne femme, c'est vrai. C'était aussi l'époque qui voulait ça. Parce qu'un garçon comme Lainel de La Salle, dans son petit coin tout seul, comme elle le dit elle-même dans la préface du bouquin qui est paru après sa mort, Lainel de La Salle, c'était un garçon discret, mais qui était d'une sensibilité et d'un rapport à ses voisins paysans tel que rien ne lui échappait, quoi. Rien ne lui échappait. Et ces deux bouquins, je les relis à chaque fois. Je vois tous les détails, l'étude, tant psychologique que dans le détail matériel, de tous nos paysans du Sud, au moins ceux du Sud de l'Indre. Parce qu'il est vrai que si tous ces paysans ont vécu pareillement, il y avait quand même des nuances, ne serait-ce que dans le parler, des nuances assez marquées entre le nord du Berry et puis le Sud, c'est l'évidence. Lainel de La Salle a été de ceux-là. Mais bien d'autres qui sont moins connus. Je découvre en ce moment un homme qui s'appelait en réalité Charles Martin Rousselet, qui s'était fait nommer au nom de plume de Pierre Vermont. Il n'a pas écrit beaucoup de bouquins, il en a écrit que deux, dont un qui parle du Berry, Chronique populaire du Berry, ça s'appelle Chronique populaire du Berry, c'est bien ça. Il est né en 1798, donc c'est quand même la fin, l'extrême fin du XVIIIe siècle, et il est mort seulement en 1840. Donc il n'a pas vécu longtemps, il n'a pas pu faire des choses remarquables. Il était, à mon avis, de la même veine que Sand, ou dans l'Allier, par exemple, le fameux Achille Allier. C'était des gens romantiques, certes, avec une vision bien spécifique de leur époque, mais il était intéressé par tous ces gens-là. Il dessinait, d'après ce qu'il nous dit, parce qu'on n'a rien retrouvé de lui. Je fais quelques petites recherches en ce moment, et j'aimerais bien en trouver davantage sur Pierre Vermont. Il dessinait, comme il le dit, et il écrivait sur cette période. Peut-être que Sand l'a connu. Ils se sont peut-être connus comme jeunes écrivains berrichons à Paris. On n'en voit pas la nouvelle. Certains disent même qu'il serait le modèle, dans Jeanne, dans le roman Jeanne, le modèle de l'avocat qui est amoureux de la pastoure, complètement opposé à tous ces mouvements de sorcellerie, de vision un petit peu diabolique. Repose-moi ta question, parce que tu me disais comment non, je fais des digressions, puis tu voulais savoir comment
finalement on est un héritier.
Oui, c'est tout à fait ça. On hérite les uns des autres, un peu comme dans une famille. Ça, c'est la famille de pensée, si j'ose dire. Quelle vie j'aurais pu avoir sans la rencontre avec Roger Pierron? Je me pose quelquefois la question. Ça a orienté toute ma vie, au bout du compte, et celle des miens autour, puisque, au bout du compte, aujourd'hui, les Thionnins de Lignières, c'est ma fille et une de ses copines qui en prennent la direction. Et puis son frère aussi, puis quelques-uns d'autres autour, les jeunes. Donc, ça s'hérite encore. Alors, ça s'hérite au niveau du fonctionnement, aussi un petit peu au niveau des connaissances, mais on sent bien qu'ils auront encore à apprendre et que pour eux, ce sera plus difficile et sans doute un peu plus livresque parce que, bien évidemment, la source se tarit. On a beau se dire parfois qu'il y a encore des choses à récolter, et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est de plus en plus difficile. Il se passe quand même un phénomène que je trouve intéressant. Et mon gendre Romain Persona en est un exemple. C'est un garçon qui a une trentaine d'années et qui, depuis l'âge de 14 ans, enregistre, empile les notes. Il a des dizaines et des dizaines de classeurs. Pour ne rien en faire totalement dans l'instant, mais j'imagine qu'il y aurait là des compléments à ce qu'ont écrit les autres depuis 150 ans et aussi des choses nouvelles. Alors, on va se dire, mais comment, pratiquement 70 ans après la guerre, la dernière guerre, comment peut-il y avoir encore une mémoire paysanne dans une campagne qui est vouée aux tracteurs, aux grosses bennes? Je crois qu'il y a eu une rupture. Il y a eu la période d'après-guerre où les gens ont complètement eu pour souci de vivre, pour simplifier, à la mode américaine. Mes propres parents, qui n'étaient pas paysans, mais qui avaient quelques petites bribes de mémoire collective, comme tout un chacun, mais étaient à 100 lieues de toutes ces préoccupations-là. Ils auraient aujourd'hui 110 ans, bientôt. Mais certaines personnes, qui ont aujourd'hui entre 60 et 80 ans, ont tellement vécu avec intensité leur enfance, et en ont été des mémoires si vives, qu'aujourd'hui, ces gens-là vous racontent des faits précis, mais presque mieux que auraient pu le faire leurs parents. Parce qu'ils en sont un peu décalés, donc ils en connaissent un peu mieux la valeur ou l'originalité. Pendant une certaine période, tant qu'ils ont été au travail, ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de tout ça. Mais la vie d'aujourd'hui permet d'avoir la retraite, un certain confort de vie, une douceur de vivre qui permet les loisirs et à la mémoire de se libérer un petit peu. Ça, c'est quand même important. Et puis, c'est des gens qui aussi, par la radio, par la télévision, ont un brin de culture. Et donc, qui comprennent que ce dont ils sont dépositaires a de l'intérêt. Si bien que, curieusement, au moment où on pensait que tout allait s'oublier, eh bien, il y a encore d'assez jolies traces de mémoire à la deuxième génération. J'ai l'impression que c'est un phénomène intéressant. Et pour voir l'épaisseur des cahiers de Romain, eh ben, je me dis qu'il y a encore gros autre chose à noter. Et Romain, qui a 30 ans, parle Berrichon comme s'il avait vécu en 1870. Il dit lui-même qu'il a emmené son grand-père à l'école.
Mais toi, tu es venu à la tradition populaire par la musique.
Par le hasard. Par les aléas de la vie, parce que tout est comme ça au bout du compte. Plus je vieillis, plus je m'aperçois que tout va à la va comme je te pousse et qu'il n'y a pas forcément des volontés affirmées dans nos vies. Il y a la reprise au bon, la reprise de la balle au bon dans certains cas. J'habitais dans un faubourg de Lignières, où les parents de Roger Pierron, quittant leur ferme, avaient acheté un petit bout de maison de 2 pièces qui était déjà pour eux un confort notable. Donc, on était voisins, à 25 mètres les uns des autres. Roger, lui, avait déjà, à cette époque-là, qu'on est dans les années 50, il avait déjà une certaine notoriété. Les Thiolins de Lignières étaient un groupe vraiment fait, avec des statues déposées, etc. Et Roger était connu un petit peu partout. Il cherchait à rassembler autour de lui la jeunesse. Donc, il avait commencé par solliciter mon frère. Et mon frère était déjà dans le groupe à cette époque-là, portant les premiers costumes, comme on dit aujourd'hui, à la mode de Pierre Panis, des reconstitutions d'après-guerre, et même d'avant, qui étaient plus ou moins intéressantes et qui ont été d'ailleurs rejetées à une certaine époque. Mais il fallait en passer par ce stade. Donc mon frère y est allé, et puis tout ça, ça a correspondu à peu près à l'acquisition du château du Play, où on se trouve aujourd'hui, par le groupe. Donc Roger cherchait à rassembler autour de lui la jeunesse, il était instituteur, il avait pour ça une certaine facilité, il avait beaucoup d'ouverture, il avait ce caractère à la fois de mentor et d'ogre. À l'époque, on discutait pas les ordres de Roger, c'était cadré. Et donc nos parents nous laissaient bien venir sous la férule de cet homme-là, il n'y avait pas de souci. Même si dans Lignières, on disait « Mais qu'est-ce que font tous ces jeunes la nuit là-bas, ça se rassemble la nuit, il doit s'en passer des belles ». Voilà, c'était un peu la mentalité du coin. J'avais 16 ans à peu près, et on a repris la bâtisse, on l'a améliorée comme on a pu. Aujourd'hui, elle est encore pleine de trous et de sommes à mettre pour la réparer, mais enfin, on y vit pas si mal, dans un cadre très agréable. Donc, Roger, tout naturellement, m'a fait venir, et puis un jour, je lui dis, il avait pas deviné, je dis « j'aimerais bien jouer de la cornemuse ». Ouah ! Qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Ben, il dit « je vais t'en prêter une ». Mais il n'en avait pas tant que ça, à l'époque on n'avait pas des cornemuses sous la main comme ça, et puis il y avait surtout des problèmes d'anches que personne ne savait faire, sauf encore le père Charbonnier, le dernier fabricant à Nohanvic. Et puis un ou deux qui s'y étaient mis à gratter ses anches. Alors on allait gratouiller ça chez Pierre, chez Paul, mais ça marchait pas toujours très bien. Donc il avait pas hésité, il avait acheté au sortir de la guerre un bagpipe, très beau bagpipe écossais Anderson. C'était un Écossais qui remontait après la guerre chez lui, il n'avait pas de sous. Et puis Roger l'a rencontré, il me dit « je te vends mon bagpipe ». Hop, pour une poignée de billets, il avait le bagpipe. Donc Roger, sans sourciller, me prête le bagpipe. Alors t'imagines, un gamin de 16 ans qui sait pas du tout jouer. Donc mes parents habitaient dans un petit village un peu éloigné où il y avait des bois. J'allais dans les bois, un peu comme pour les maîtres sonneurs, essayer de m'apprendre à jouer de ce bagpipe. Et un beau jour, voulant mouiller cette hanche épaisse de bagpipe, j'ai pris le lévriade par le bas, j'ai voulu le sortir et le lévriade cassé en vrille d'un bout à l'autre.
Le bois. Qu'est-ce que c'est le lévriade?
Lévriade, c'est le hautbois, si tu veux. C'est ce que disent les Bretons, du moins. Le chanter, comme disaient les Anglais. Donc, j'ai cassé ma cornemuse, j'en étais tout retourné, et là, Roger Monnard prêtait une un petit peu mieux, et j'ai fait mes débuts avec, et ça c'était une chance pour moi, avec deux vieux ménétriers de tradition. Un qui s'appelait Joseph Fleury à la cornemuse, et l'autre qui s'appelait Gaston Guillemin à la vielle. Et je peux te dire que j'en ai quelquefois bavé avec eux. C'était un peu l'ancienne mode. Je me souviens, évidemment, je faisais des conneries. Hein. Et je me souviens de Gaston Guillemin disait « Quand on sait pas jouer, on va dans les bois !» Bon, t'avais tout de suite compris la leçon. Alors que Fleury Joseph était beaucoup plus chaleureux. Hein. C'était un homme qui avait commencé à 12 ans et qui jouait à une époque très très bien. C'était un des piliers des Gars du Berry, la fameuse formation réalisée par le fils de Georges Sand, Maurice Sand, dès 1888. Donc Fleury était beaucoup plus doux, puis il avait une espèce de verve. Il grimpait des fois sur l'arche là-bas en disant « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres !» Et tout ça, c'était le Christ ressuscité. Et il jouait très très bien. Son jeu était remarquable. Donc voilà, un peu de passion intérieure, la découverte du roman de Georges Sand, Les Maîtres Sonneurs, plus cette période où je trempais dans l'extrême ressource de ces vieux ménétriers, ben voilà comment la passion m'est venue.
Et là, tu as quel âge ?
Quand je commence, j'ai 16 ans, entre 16 et 20 ans, quoi. Et Roger, surtout, nous emmène en enquête ethnographique. Et on fait ce que tu fais là, c'est-à-dire qu'on enregistre les gens, quelquefois on les filme. On regrette aujourd'hui de ne pas avoir eu la technologie qu'on a aujourd'hui. Parce que le premier magnétophone, quand même, que Roger a eu, qu'on appelle encore aujourd'hui le magnétophone à fil, parce que le magnétisme, c'était des fils gros comme des fils à coudre, et il pèse près de 20 kilos, quand même. Après, on en a eu d'autres un peu plus légers, tout de même imposants. Et petit à petit est venu le magnétophone de cassette et tout ça qui nous a allégés. Je crois qu'on en a, je me demande si on n'en a pas 10, 12 ou 13 même des magnétophones ici différents. On a une petite collection de tout ce qui a été l'enregistrement durant ces 70 dernières années, quoi, qu'on garde précieusement en archive. Et donc, Roger nous a emmenés. Et nous a communiqué ce goût, à la fois pour la littérature, pour le contact avec les gens, pour l'enregistrement, et puis pour, au bout du compte, le spectacle. Parce que il fallait gagner sa vie, si j'ose dire. Il fallait que ce château vive, donc il fallait de l'argent. Et pour ça, à l'époque, le seul moyen, c'était ce qu'on appelait les sorties. Le groupe folklorique faisait à droite et à gauche des manifestations qui nous rapportaient 4 sous et qui permettaient de faire vivre la baraque ou d'acquérir des éléments nouveaux de ce qui est aujourd'hui notre collection. Collection importante, quoi qu'on en dise. Collection dont on se pose quelquefois avec d'autres copains qui ont eu la même démarche dans le Sancerrois, dans l'Indre. Il y avait, à cette époque-là, au sortir de la guerre, plusieurs groupes folkloriques qui, petit à petit, ont eu la même démarche de collectionneurs, de collecteurs, et qui ont acquis, aussi bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel que dans le patrimoine matériel, des collections qui sont pas uniques, hein, on les retrouve dans toute la France, dans toutes les provinces, mais qui sont quand même une belle trace de la vie traditionnelle. Et aujourd'hui, effet d'époque ou effet de ma vision personnelle, elle est partagée par plusieurs autres de mon âge, l'intérêt pour ces choses-là, ça me nuise. Ça me nuise tellement qu'on est heureux d'avoir ici chez nous une poignée de jeunes, parfois éloignés, car ça c'est le gros souci, c'est que toute la jeunesse d'aujourd'hui, elle est dans le midi de la France, à Paris, à Troyes, à Nantes, à Strasbourg, et que bien évidemment, pour faire vivre cette chose-là, il les faudrait beaucoup plus près. Donc ça contribue à cette espèce d'oubli de la culture populaire. Enfin, du moins, c'est notre impression. Et on se dit, tout ça, qu'est-ce que ça va devenir demain? Et on sait bien qu'il faudra partir, et pas dans des siècles. Et donc, on va laisser ça à une couche de jeunes qui ont aujourd'hui entre, allez, mettons, 35 ans et 18 ans. Et on se dit, qu'est-ce qu'on leur laisse, là? Quel est le piège qu'on leur laisse? Parce qu'il faudra s'occuper de l'enveloppe, des murs, des toitures, ça coûte un bras, comme on dit aujourd'hui. Et qui pourra avoir cet argent? Qui viendra voir ces collections? Alors, on vit dans l'espérance d'un temps où peut-être, saoulé d'autres situations, on s'intéressera à ça. En ce moment, par exemple, le Château du Play est siège social d'une autre association qui s'appelle l'Union des ressources génétiques du Centre Val-de-Loire. On a deux ingénieurs agronomes à notre aide et on essaye de faire en sorte de conserver, de préserver, de valoriser aussi des ressources génétiques qui sont l'héritage direct de ces classes paysannes des 100 dernières années, quoi.
C'est aussi un musée, le Château du Play.
Le Château du Play est un musée avec ses réserves, alors des granges, plusieurs granges, des maisons un peu partout. C'est un musée et j'en souris parce que, bien évidemment, pour la conservation de toutes ces choses-là, il faudrait d'autres moyens que ceux qu'on a. Hélas. On fait de notre mieux avec nos forces physiques, avec nos moyens, avec les maisons qu'on a achetées petit à petit. Mais on a bien conscience que les conserver en bon état demanderait beaucoup plus que ça. Demanderait surtout qu'une communauté prenne conscience de l'importance et que de façon collective, on fournisse des moyens. Encore récemment, on avait une dame ici qui s'occupe du mouvement leader. Alors on nous dit un peu partout, mais il y a des choses sur l'Europe, on peut vous aider. Alors on fait les démarches. Et puis quand on arrive au bout de la démarche, on dit ben non, parce que on a choisi des axes dans lesquels vous n'êtes pas. Donc on pourra pas vous aider. Là, on calculait avec ma belle-sœur hier, pour faire le minimum de ce qu'il nous faudrait, construction, de mise en place, de protection, il nous faudrait 60 000 euros. Ça se trouve pas, comme on dit, dans le pied d'un bœuf. Deux pièces ont des plans. On a fait faire les plans, parce qu'il y a une jeune copine qui est ébéniste et qui a fait un travail personnel pour l'instant, mais qu'il faudra bien lui payer, la pauvre. Un, pour conserver tout ce qui est bande magnétique, photographie, tout ce qui est un peu fragile. L'autre, pour conserver les costumes, notamment. On a une très belle collection de costumes, mais évidemment, il faut que ce soit protégé, il faut que ce soit rangé, il faut que ce soit mis à plat. Des grands mouchoirs de cou en indienne ne doivent pas être stockés n'importe comment. Il faut une hygrométrie. Tout ça, nous, on est absolument incapables de le faire. Il faudrait donc que ce soit la communauté qui se charge de ça, ou du moins qui aide. Or, localement, sur le département du Cher, notre petite subvention annuelle qui était de 3 000 est passée à 1 500 et cette année elle est passée à 1 000. Et puis voilà, et la municipalité nous donnera 150 euros. Et donc les 60 000 euros, ils sont pas encore ramassés demain. Donc c'est un souci qu'on laisse parce que l'héritage se fait aussi de cette façon-là. Hélas, c'est un héritage un peu dur qu'on va laisser à nos gamins en espérant qu'ils réussissent. Je leur dis assez souvent, écoutez, vous ferez ce que vous pourrez et puis ma foi... Après nous, le déluge. C'est pas bien de parler comme ça, mais il y a des rois qui l'ont dit. Il y a bien des paysans qui peuvent le dire encore.
Mais un château comme celui-là, vous l'entretenez avec quel argent?
L'argent qu'on gagne, difficilement. On fait visiter notre musée. Parce que, comme je l'ai encore pas expliqué, il y a la partie conservation, la partie réserve. Et puis, dans les pièces basses du château, qui est une cour fermée en forme de U, dans toutes les pièces basses, on organise... généralement tous les 2 ans, une exposition à thème. Ça permet de faire tourner les objets et d'avoir un intérêt renouvelé. On suppose un intérêt renouvelé. On voit quoi? 1 000 à 1 500 personnes par an? On en a vu plus à une époque. Et donc on leur propose sur un thème, ici c'est les générations paysannes, comment les générations se sont poursuivies avec leur changement et parfois leur continuité. On a une image assez amusante, là, 3 images qui tournent sur elles-mêmes, entre une gravure de Stella, qui n'est pas forcément berrichonne, mais qui nous montre des paysans au 17e, et puis certaines maisons paysannes de l'entre-deux-guerres. Au point de vue des lieux, comme du mode de vie qu'on y avait dedans, il n'y a aucun changement. Et quand certains sociologues comme Bergugno disent que au bout du compte, entre l'époque antique et 1950, il y a eu pour beaucoup de gens pratiquement aucun changement, ce qui est pas loin d'être vrai. Les choses changent après la guerre, quand l'Amérique nous apporte des visions un peu nouvelles. Mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et donc, cette exposition essaye d'emmener tout un chacun sur la trace de sa famille, en remontant le temps, allez, disons, jusqu'à la fin du XVIIIe. Les gens qui viennent sont très intéressés. Le dernier couple qui est passé est resté 4 heures, avec commentaire du guide, parce qu'on est là. Mais il en est passé 2 le dimanche, et un seul le samedi. On est venu à 4 copains de Bourges, qui est quand même assez éloigné. On a dépensé une somme d'argent qui est largement plus grande que celle qu'on a récoltée pour faire tourner notre musée. Sans ce don personnel de notre temps, de nos âmes et de nos euros, ben rien tournerait.
Tu as osé parler de groupe folklorique, alors que c'est un terme qui est souvent très décrié. Et là, sur les Thiolins de Linière, on voit que derrière ce groupe folklorique, il y avait une véritable recherche.
Ben, tout dépend de ce qu'on cache derrière le mot folklorique. On ne voyait aucun souci à ce qu'on nous appelle groupe folklorique, même quand c'était pas bien vu. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est la force des gens droits et sûrs d'eux. On pense autour ce que l'on veut et on fait comme on a envie de faire. Alors il est vrai que tous les groupes folkloriques, c'est vrai, et encore aujourd'hui, n'ont pas, ou ont, mais insuffisamment, le souci de l'authentique, de l'histoire, de la transmission, c'est vrai. Mais il y en a quand même quelques-uns qui font un très bon boulot.
C'est Roger Piron qui a créé les Thiolins de Linière.
Oui, c'est Roger. Au sortir de la guerre, donc, il avait fait la résistance, un jeune résistant, il revenait avec tout le rêve d'après-guerre. D'ailleurs, c'était l'époque où il se retrouvait beaucoup, notamment il y avait eu une manifestation à la limite de l'Allemagne et de l'Autriche. Et là, toute l'Europe s'était retrouvée, et beaucoup de ces jeunes d'Europe, heureux de retrouver la paix et la jeunesse, avaient ce souci de conserver cette culture populaire. Et c'était l'union sacrée pour la paix, et assez souvent au travers de la culture paysanne ou du moins populaire. Mais pendant la période pétiniste, c'était aussi ça qui avait quelquefois soutenu les gens. Donc on a fait dire à ces groupes folkloriques pas mal de choses qui étaient vraies, qui étaient fausses. Il y a même des études récentes qui ont été faites et qui se poursuivent encore pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens durant cette longue période. Et nous, on est le fruit de cette période-là. Roger en était le fruit. Quittant la résistance, finissant ses études d'instituteur, il était monté à Versailles et avait eu la chance de voir, pour lui, dit-il, c'était une chance, de voir une fête folklorique qui rassemblait des gens d'un peu toute la France en costume. Et là, ça a été comme un déclic. Sa famille paysanne, il fallait lui redonner ce qu'elle avait peut-être pas eu encore, une image qui brille un petit peu et qui soit juste. Je crois que c'était ça, une forme d'authenticité. C'est toujours ce qu'on a reconnu dans la démarche de Roger.
Pour avoir assisté à l'Assemblée du Play en 1979...
dans l'autre siècle.
Le spectacle des Thiolins, c'était pas seulement des danses sur scène, il y avait une véritable pièce de théâtre.
Oui, on appelait ça une évocation, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire on n'est pas dans une copie, on ne sera jamais dans une copie, puisque le temps passe et qu'il emporte avec lui la dimension du présent. Ça sera toujours qu'une évocation, mais on cherche de le faire en sorte que ce soit ressenti en face comme étant la plus près de ce qui était. Et comme ça, on a monté pendant presque une 60aine d'années maintenant, on a monté des spectacles, on en fait de moins en moins, notre jeunesse est au loin, parce que les jeunes ont vieilli, que leur force diminue un petit peu, et qu'il est venu un temps où j'ai jeté le manche après la cognée, comme on dit. J'ai dit, allez, c'est plus possible d'avoir des répétitions trop... Il fallait répéter, il fallait chercher les costumes, il fallait faire des recherches en archives pour que le thème évoqué ait le plus de réalité, d'authenticité possible. C'était devenu un peu compliqué. Trop d'éloignement. On se trouve, nous, en Berry, sur la diagonale du vide, comme on dit quelquefois en France. Les vieux restent. Ici, à Linière, je crois que la moyenne d'âge, ça doit être autour de 70 ans. À 70 ans, c'est pas facile de faire des petits, même quand on en aurait bien la volonté. Et donc, se creuse un trou béant dans l'âge de la population et dans la population elle-même, puisque beaucoup sont au loin. Alors ils reviennent l'été, on fait toujours notre assemblée du Play. Cette année, c'est comme on est dans Génération Paysanne, on y reprendra le fameux thème des livrées et des noces chères à George Sand, qui l'a décrit avec beaucoup de détails. Ce sera une façon de refaire passer dans les générations actuelles. Alors, il y a une frange de la population qui s'accroche. Je dirais, en gros, c'est une frange qui a la connaissance, qu'on pourrait, de façon un petit peu rapide, dire d'intellectuels, souvent des étrangers. Les plus grands remerciements ou les plus grandes congratulations de ces temps-là, c'est les Anglais ou les Américains ou les Hollandais qui nous les font. C'est pas les gens du pays, forcément.
Ouvrez la porte, ouvrez, Françoise ma mignonne, j'ai un bio bouquet à vous présenter, et la ma mignonne, laissez-nous rentrer. Ma mignonne, laissez-nous rentrer.
Je vois sourire mon père et là ma mère aussi. Et moi, je suis une fille d'un si grand prix. J'ouvre bien ma porte, entrez mes bons amis.
Pour en revenir à la musique, aujourd'hui, la cornemuse du centre est devenue quasiment hégémonique. Tu nous parles que tu as commencé sur une cornemuse écossaise. Comment s'en est venu à ce que la cornemuse du centre soit devenue la cornemuse de référence, finalement ?
Là, tu me poses une question à laquelle j'ai quelquefois réfléchi, mais peut-être pas suffisamment. Je crois qu'il y a eu, dans le centre de la France, des groupes folkloriques qui ont bien tourné. Ces groupes folkloriques tournant bien, c'est-à-dire recherchant une certaine authenticité, comme je le répète toujours, et une pratique la plus proche possible de ce qui était avant, a généré des vrais musiciens, des très bons musiciens. Je pense à la Saboté Sancerrois, je pense à la Chavanée de Montbel qui est en Bourbonnais, et bien d'autres, même au gars du Berry, tout ça, où d'autres musiciens sont venus et ont... pour certains, une pratique remarquable qui a fait drapeau un peu. On a fait des stages, on a fait à une époque les musiciens routiniers qui étaient au départ plutôt au centre, les BBN, comme on disait, Berry, Bourbonnais, Nivernais. Puis ça s'est élargi et on a eu des musiciens routiniers un peu dans toute la France. Le mouvement a plus ou moins périclité, mais il y a encore des anciens de cette époque qui voudraient, qui se réunissent quelquefois, pour faire, sinon revivre, du moins se redonner du courage pour les époques qui viennent. On a, en Berry, bien sûr, ça a été important, le fameux Saint-Chartier, la fameuse manifestation d'importance qui est liée au roman des Metzonneurs, commencé en 1976, et nous y étions, bien sûr. J'ai été le premier José de l'époque. Ah oui, j'en souris parce que... Il y avait eu évidemment un rêve à cette époque-là, puis une jeunesse qui fait que rien vous résiste, quoi. Donc il y a eu Saint-Chartier, et donc cette réunion de tous les luthiers de France, puis d'Europe, et quelquefois du monde, on peut pas dire de l'univers, parce que ce serait peut-être un peu grand, mais ça a marqué aussi, je crois, ça a donné un coup d'élan d'abord aux bons fabricants, on a encore de bons fabricants. Donc, je crois que c'est ça l'hégémonie de la cornemuse à deux bourdons du centre-France. Ça a dû être ça. On venait du nord de la France pour prendre des leçons ici. Je pense aux copains boulangers et tout ça. Et maintenant, ils ont des écoles là-haut qui sont bien plus ouvertes et bien plus spectaculaires, si j'ose dire, dans le jeu et dans leur pratique, et beaucoup plus construites que la nôtre.
Cette différence dont parle George Sand entre le Bourbonnais et le Berry, tu l'as ressenti, toi, encore?
Ah, on l'a ressenti. On l'a mis en exergue, je dirais, par goût des œuvres de George Sand, et parce que c'était quand même une vraie réalité. Tous les anciens, avant 29, je crois, ou 26, au gars du Berry, tous les anciens jouaient du 13 pouces. Et quand on voit sur les bouquins du 17e que la cornemuse de Berger est de 13 pouces, on a le choc de ce temps qui n'a pas l'air de bouger en Berry. On a fait en sorte de cultiver, si j'ose dire, cette différence, mais qui était une réalité. Mais en Bourbonnais, il y avait aussi des 13 pouces et des 16 pouces et des 18 pouces et de toutes les pouces possibles. En Bourbonnais, ils jouaient un petit peu plus long, du 18 pouces, du 20 pouces et du 23 pouces. Mais on en trouve aussi en Berry.
C'est-à-dire plus grave.
Plus grave. Plus grave. Et au bout du compte, ça apportait de l'eau au moulin de Georges Sand de continuer. Quand on a trouvé la première grande cornemuse, parce que, au départ, j'en parle, je sais pas si c'est le moment, mais cette cornemuse, elle avait double bourdon, l'un desquels, en manchette de bout en bout, avait 5 pieds de long, ou, etc., etc. Tout ça pour nous, on s'est longtemps demandé si elle était pas, en bonne romantique qu'elle était, de faire du rêve, de construire du rêve. Bien sûr, il y avait une jolie aquarelle, ou gouache plus exactement, de Maurice Sand qui représentait l'Assemblée de Noran vers 1840, où on voyait ces grandes cornemuses décorées d'étain. On les voyait bien sur cette gravure, mais quand même, il avait fait une telle erreur en mettant deux bourdons d'épaule et un bourdon parallèle au bois sur le devant qu'on se disait, attends, là, c'est peut-être bien un petit peu quand même de la fantaisie. On n'était pas sûrs, nous, et on connaissait pas. On avait hérité, Roger avait hérité, tout de suite après-guerre, d'une cornemuse d'un de ses copains, qui avait été trouvée ici, à, allez, mettons, 15 kilomètres, au bois d'Abert. Le bois d'Abert, qui était au 18e, la séparation entre le Bourbonnais et le Berry. En fait, le Bourbonnais montait très très haut. Dans ce qu'on considère aujourd'hui le Berry, il y a une large partie du Bourbonnais de l'Ancien Régime. Et à 15 kilomètres, là où on a retrouvé cette petite cornemuse de 13 pouces, je pense, incrustée d'étain, c'était déjà un peu le Bourbonnais. Ce copain avait dit à Roger, je te la prête. Si je ne reviens pas, elle sera à toi. Le pauvre est mort dans les îles et la cornemuse est restée chez les Thiolins. Alors, il y avait cette notion d'instrument décoré, à la mode de ce que disait Georges Sand, mais on n'avait jamais vu de grande. Or, un jour, un copain antiquaire, lié à Christiane Sand, d'ailleurs, qui était l'héritière, la dernière héritière qui vient de disparaître, d'ailleurs, de la famille Sand, nous dit, venez voir, les gars, j'ai trouvé quelque chose qui va vous intéresser. On s'en va en Bourbonnais, sur les terres, aujourd'hui, de la Chavanée de Montbel, à Château-sur-Allier, ou Verdre, très exactement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La première grande cornemuse qu'on n'avait jamais vue. Et il nous la vend. Roger avait cassé sa tirelire d'instituteur pour pouvoir l'acquérir. Aujourd'hui d'ailleurs, signe des temps, on l'a prêté à un copain de la Chavanée, à Emmanuel Paris, pour qu'il refasse avec Prieur un disque sur instrument ancien. Donc elle revit d'une certaine façon. L'histoire n'est pas finie, quoi. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait de ces cornemuses. Et puis le hasard des rencontres chez nous ou à Paris chez le boucher, comme on disait à l'époque, l'antiquaire en instruments de musique, de la place des Vosges, on a retrouvé chez Alain Vian, le frère de Boris Vian, on a acheté là-bas chez lui aussi des grandes cornemuses, pas forcément incrustées d'étain. Et quand un de mes copains cornemuseux, Jean-Jacques Smith, a fait à Montluçon, voilà quelques années maintenant, une exposition qui s'appelait Les Cornemuses de Georges Sand, bah on en avait retrouvé dans tous les musées d'Europe et d'Amérique, je crois bien que c'est 150 ou quelque chose comme ça.
Et il y a toujours eu des musiciens quand même, depuis la guerre 14 jusqu'à ce que toi tu en joues?
Oui, la phalange des gars du Berry a permis à tous ceux qui jouaient un petit peu à droite à gauche, comme le père Fleuret, Joseph Fleuret, de se rassembler et de poursuivre leur œuvre, quoi. Isolés dans leur pays, sans doute que tout serait disparu, mais le fait de les rassembler, de faire des concours, parce qu'il y a eu des concours nombreux dans le Cher et dans l'Indre, à chaque fois c'est pareil, quand il y a un truc qui flanche, je pense par exemple aux animaux, les animaux de race locale, bon ben, pour maintenir l'intérêt, on fait des concours. Pour maintenir l'intérêt pour la cornemuse, on fait des concours. On a essayé ici au Château du Play, ça a marché un petit peu, c'est retombé, à faire des concours de chants à danser. Concours de branle, par exemple, et pendant quelques années, on a eu des vrais poètes et des vrais musiciens qui ont fait des branles nouveaux.
Il y avait une tradition de chant à danser dans le Berry?
Ben, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas de pays où ça n'existe pas, puisque on n'avait pas toujours un musicien sous la main. Dans Les Maîtres Sonneurs, toujours le roman, il y a une vieille femme qui chante quand il n'y a pas de musicien. Et puis d'un seul coup arrive le grand cornemuseux du Bourbonnais. Alors là, évidemment, on va le laisser jouer. C'est trop grand, c'est trop beau. Mais sans ça, tout le monde danse au tralala.
Et la vielle, c'était pratiqué aussi ?
Ah oui, la vielle a été très pratiquée. Elle est peut-être encore plus pratiquée aujourd'hui grâce à Saint-Chartier, grâce aux fabricants actuels qui sont parfois très inventifs, qu'ils l'ont été et puis qu'ils le sont encore, la vielle est sûrement plus pratiquée que la cornemuse. Mais à partir du moment où, à la fin de l'Ancien Régime, Janzade, dans le Bourbonnais, devient centre de fabrication, les cercles concentriques autour de Janzade vont arroser le Berry abondamment. Hein. Il n'y avait pas de famille de cornemuseux qui n'ait pas tantôt le père avec un fils vielleux, tantôt le père vielleux qui refaisait un petit-fils joueur de cornemuse. Ça s'est souvent pratiqué de cette façon-là. J'ai plusieurs exemples en tête. Les Guillemins, par exemple, le père Guillemin, qui était tailleur de pierre, qui est venu construire une église neuve au Châtelet en Berry, jouait de la cornemuse autour de Montluçon, où on en jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ses enfants ont joué de la clarinette, parce que c'était le nouvel instrument, ou ils ont joué du piston, ou ils ont joué de la vielle comme Gaston. Et ils se sont mis à jouer père et fils ensemble. Et comme déjà les orphéons municipaux donnaient des notions au peuple d'harmonie, si j'ose dire, hein, l'harmonie municipale, c'était vrai au moins au niveau de la musique, sinon au plan politique, eh bien Gaston a eu l'oreille, et puis sans doute aussi un sentiment personnel, de vouloir harmoniser. Et on a cette très belle phrase que Gaston nous disait, son père le réprimant, lui reprochant de faire des secondes voix. « Tu la connais au moins mieux que moi, cette air-là. » Il pensait que le gamin se trompait. Mais il lui voyait tant d'assurance que ça troublait le père, quand même. Et c'était déjà ce désir d'apporter un ensemble de sons.
Mais au 19e, ça se pratiquait aussi.
Tu parles de
la vielle.
Ah oui, bah, surtout au 19e.
Parce que c'est un investissement considérable.
Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui se la faisaient. On a ici, dans nos collections, 2-3 vielles qui sont des chefs-d'œuvre d'art populaire, de gratouillis au couteau, et même encore une qui vient de nous arriver, là, voilà, 2 ans, faite par un musicien, peut-être pas par manque d'argent, mais par goût de se faire son instrument, a fait une vielle fort sympathique, je dirais, avec des calcomanies, des gravures, et même un testament, où il dit « Je voudrais que cette vielle ne meure pas, je remercie ceux qui la conserveront. » Et c'est comme ça qu'elle est arrivée chez nous. C'est touchant, il y a des instruments très touchants. Donc tout le monde n'avait pas référence aux grands luthiers Pajot ou Caille de Cante ou de Janzard. Hein. Il y a eu des fabricants en Berry aussi, de petites vielles assez jolies, dans la région de la Châtre.
Et les cornemuses étaient faites par des professionnels ou par des gens qui se les tournaient eux-mêmes ?
Écoute, je pense qu'ils étaient plus ou moins bons, mais c'était des professionnels quand même. En Creuse, par exemple, on a été voir avec Roger, à l'époque où il était toujours là, on a été voir d'un petit village, on avait eu l'adresse d'un fabricant de cornemuses qui était disparu à la fin du 19e siècle, mais dans les années 20 ou 30, on commandait encore à ce gars-là des hanches. Il n'avait pas disparu. Nous, le dernier, ça a été Georges Charbonnier, dont je viens d'hériter une copie de catalogue de vente, si tu veux. Il notait tout à côté, quelquefois, de la vache qui avait vêlé ou des cordes de bois qu'il devait vendre. Il notait ses ventes, ses fabrications. Je dois dresser, dès que j'en aurai une minute, une carte de France de toutes les cornemuses charbonniers qui se sont vendues, allez, disons, entre 1929 et les années 50 ou 60, où il est mort. Il est mort dans les années 60. On a une trace assez précise de tout ça. Oui, il y avait des fabricants un petit peu partout. Celui de la Creuse, c'était Catelot au Montillou, un petit village, un petit hameau, vers un petit peu au-dessus de Guéret, quoi. Et il était un fabricant, semble-t-il, renommé. Mais il y avait aussi Sautreau à Toul-Sainte-Croix. Bien sûr, les charbonniers qui étaient les derniers. 3 générations. Le grand-oncle, qui devait se trouver au ras de la Creuse, là. Puis ensuite, il y a eu Baptiste Charbonnier, son neveu, qui est enregistré en 1913 par Ferdinand Bruneau, Alors lui, il joue en 13 pouces. Et c'est assez amusant parce qu'en 2013, j'ai fait un duo Jean-Baptiste Charbonnier Bodiment, chacun sur notre 13 pouces, et ça marchait impeccable. Enfin, pas trop mal, disons. Et après, il y a eu son fils, Georges, qui a continué jusque dans les années 60. J'ai même pas pu aller à son enterrement parce que j'étais à Paris étudiant à cette époque-là. Mais Roger m'avait envoyé une lettre magnifique où il ne me dit jamais que Georges est mort. Mais bien sûr, je l'ai compris dans l'ocre de la petite chapelle de Vic. Très, très belle fresque médiévale. Il m'avait fait une lettre magnifique que j'arrive pas à retrouver. Par contre, je voudrais bien essayer de faire cette carte. Et sa fille doit me passer des quantités de photos de cette famille-là. Il y aurait un petit document à faire, quoi. Il y a encore beaucoup à faire sur la cornemuse. Enfin, des bricoles, au moins.
Alors, sur les arts et traditions populaires, quand on commence, on n'a jamais fini, parce qu'il y a la poterie, il y a les charrues, il y a les animaux, il y a les costumes.
C'est infini. C'est infini. C'est pour ça que, à la fois, on est parfois usé par la variété des sujets amenés à bien, et en même temps, il y a toujours du nouveau. Mon rêve, un de mes rêves, ce serait de produire, justement, avant de mourir, des petites plaquettes qui épuisent la connaissance d'un sujet en un temps donné. Là, par exemple, j'en ai un en tête, c'est la fromentée. La fromentée, c'est quelque chose qui s'est fait dans toute la France et dans toute l'Europe. Avant l'arrivée de la pomme de terre, tout un chacun mangeait des céréales. Et donc, il y avait des gens qui faisaient de la polenta, d'autres qui faisaient du bourgoule, ou d'autres qui faisaient, comment ça s'appelait là-bas en Écosse, Firmity. À une époque, ça s'appelait Firmity, paraît-il, en Écosse, qui serait à rassembler de fromenté, Firmity, fromenté, enfin bon, qui est tout simplement du blé qu'on faisait bouillir dans du lait ou dans de l'eau, enfin voilà, c'était des bouillies. Et chacun mangeait ça à longueur de semaines, de mois et d'années, quand il avait de la chance d'avoir du blé. On a fait des petites enquêtes là-dessus, à une époque. On avait même commencé avec Roger à produire un livre, le premier d'une série que nous espérons longue, avait dit notre copain Jean-Louis Boncoeur, qui était notre président d'honneur à l'époque. Manque de peau, il n'y a eu qu'un seul bouquin. On y parlait de la fromentée et de ce qu'on avait recueilli, surtout pendant la guerre, parce que pendant la guerre, si tu veux, quand il y avait des difficultés, ben tout le monde retrouvait la tradition. On faisait généralement cuire le blé dans de l'eau, puis il gonflait. On le mettait sécher dans le four quand on faisait le pain, il séchait. Et là, grâce à des mortiers de pierre ou de bois, puisqu'on en a même retrouvé un en bois, et on a retrouvé un texte qui parle de ces mortiers en bois, eh bien les gens écrasaient, ils faisaient une espèce de farine, on dirait aujourd'hui des flocons de blé, et on faisait bouillir ça dans du lait. On pouvait casser un œuf, on pouvait mettre un peu de farine pour faire une sorte de crème anglaise. Et les gens bouffaient ça, on portait ça au champ. Alors, les Thiolins s'y sont remis. Voilà, bien des années, Roger était toujours là. C'était lui qui avait réinventé ça. Puis, il y a une copine qui l'a fait un peu évoluer, et puis ma femme l'a fait un peu évoluer. Si bien qu'aujourd'hui, pour que les gens le mangent plus facilement qu'à la cuillère, on le passe au four, et ça fait une sorte de gâteau qu'on a amélioré. On a mis du raisin sec, des raisins de Corinthe, comme disait le père de Roger, des raisins de Corinthe. Et ça donne quelque chose de fort appétissant. Et à chaque fois qu'on a une réunion, comme vendredi dernier ici, on a fait deux grands plats de fromentés qui ont tout disparu. J'aimerais que les gens sachent ce que c'est, et puis pourquoi pas se mettre à en refaire. On y a mis dans les dernières de la goutte de parmin. Alors ça aussi, c'est une chose qui concerne l'ethnographie, hein, au bout du compte, le manger. Il y avait jadis, Lenel de la Salle en parle, et quelques-uns d'autres, même Olivier de Serres, au XVIe, parle des parmins. C'est une sorte de poire qui ressemble à une pomme. Lenel de la Salle disait même que si on plantait des pépins de parmin, on savait pas ce que ça allait donner. Ça pouvait donner des poires ou des pommes. Il paraît que scientifiquement, c'est pas possible. Cette poire parmin, dure, immangeable, mais qui, une fois blétie, peut être écrasée, donnait un cidre, un poiré fort goûteux, qu'ils appelaient ici localement le vin de parmin. Et vin de parmin vaut du brin de vin, vaut de la goutte. Et c'est vrai que ça saoulait pas mal. Alors on s'est remis avec un copain à en faire cette année. Et on a fait de la goutte. Et on a même fait du vinaigre. Parce que c'est tourné sans qu'on le veuille. et on parfume notre fromenté depuis cette année avec de la goutte de pommade. Et tout ça, il faut que les gens le sachent, parce que peut-être qu'il y aura 3 ou 4 personnes qui un jour se régaleront de ça.
Les pâtissiers de Lignières sont pas tentés?
Ben, il n'y a plus de pâtissiers à Lignières. Eh oui. Puis il faut qu'ils le sachent. Donc il faut qu'on fasse notre petit bouquin. Ça, c'est le rôle de l'URGC. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je suis momentanément président d'une association régionale qui s'appelle l'Union des ressources génétiques du Centre Val-de-Loire. Donc ça a commencé ici, en 2001, au Château du Plec, qui reste le siège social. Avec le temps et le travail de beaucoup d'associations, on est une 40aine d'associations, qui essayent de préserver tout ce qui est variété légumière et potagère, ainsi qu'animale. Donc c'est aussi une façon de faire des traditions populaires et du folklore. Ce que tu fais là, c'est un de mes rêves plus ou moins abouti. Je voulais le faire aboutir au niveau du parler. On avait en un temps émis à Bourges le désir, avec quelques copains, d'aller enregistrer encore, mais de moins en moins, hélas, des vrais témoins, des vrais locuteurs, et de faire un espèce de glossaire sonore, comme on fait en Berry, par exemple. Il y a un truc qui s'appelle Cyclique, qui est fait par la région Centre. Tous les films des familles qui sont versés, on a versé les nôtres, nos films aussi, à Issoudun, et qui est mis sur Internet, et tu t'en vas et tu vois tous les films de toutes les familles que tu n'aurais jamais pu voir avant. On voyait la même chose pour le parler, ce qui est assez compliqué, parce que il y a tellement de parlers différents. Une fois que tu as compris ça, comment le faire apparaître sous la forme d'un bouquin?
En plus, dans le langage, seul l'enregistrement peut le transcrire. C'est vrai que quand on lit le latin, on s'imagine bien que ça ne se prononçait pas comme on le lit aujourd'hui.
Et j'ai là un regret éternel. On avait parmi nos amis une dame qui était au CNRS, Pierrette Dubuisson, qui a fait, durant sa vie, 3 énormes bouquins qui s'appellent l'Atlas linguistique du Centre. Donc, méthode d'enquête, carte, dessin. Pierrette s'est fait tuer sur le bord de la route en sortant de son chemin de maison. Bon. On savait qu'elle utilisait les bandes magnétiques. On se trouvait, à l'époque, 1913, 2013, Ferdinand Bruno et tout ça, on avait en tête que ces histoires d'enregistrement, et on s'est dit, on va bien trouver les bandes magnétiques de Pierrette. Sauf que Pierrette, t'es sûrement au courant, parce qu'ils ont tous pratiqué au CNRS de cette façon-là. Pierrette, enregistrée, rentrée dans son foyer, transcrivait phonétiquement, parce que pour elle, c'était la sécurité, la science qui devait passer par là et être transcrit sur ses bouquins, puis s'empêcher d'effacer les centaines de personnes. Et quand tu me dis que la bande magnétique, c'est la voix, t'imagines le regret qu'on peut avoir, quoi. Tous ces gens qui ont parlé, depuis la Sologne jusqu'au Bourbonnais, qu'elle a enregistré tout ça, des heures de parler magnifiques sont parties en fumée.
Peut-être qu'elle n'avait qu'une seule cassette.
Elle avait qu'une seule cassette. Elle avait qu'une seule cassette. Alors, on en rigole aujourd'hui. Moi, je me replonge dans ce qu'on a fait avec Roger dans nos débuts. Ça coûtait cher, les grosses bandes comme ça. Et puis, Roger, il ne le niait pas. Au début, c'était une manière de conserver la mémoire. On n'aurait pas pu peut-être retenir toutes les nuances de chant et tout ça. Quand on voulait redonner pour nos spectacles une chanson à peu près correcte, tu pouvais réécouter ta bande. Si tu l'avais uniquement dans ta mémoire, va donc garder ça. Donc au début, quand on faisait nos bandes magnétiques, c'était uniquement pour pouvoir retranscrire au plus près et s'en servir.
Alors, les arrêts de tradition populaire, c'était le métier qui te coûtait des sous, je suppose. Et ton métier, c'était?
Moi, j'étais prof d'art plastique. Ouais. J'aurais pu, ça m'a tenté à une époque, faire comme quelques-uns d'autres, c'est-à-dire ne me donner qu'à la musique et à la recherche ethnographique. Quand on n'a pas de parents fortunés, c'est pas toujours facile. Mon crève-cœur et ma joie, au bout du compte, a été de me balader entre mon métier et puis le travail ici. L'un prenant beaucoup à l'autre, et réciproquement. Mais évidemment, j'ai bien saisi depuis le début que ma vraie passion, c'était ça, quoi. Mais je l'ai fait toujours en amateur, plus ou moins éclairé. Moi, je m'occupe de 5 associations. Certaines sont pas loin de la maison, mais d'autres, par exemple, pour tout ce qui est régional, avec l'URGC, c'est largement à mon compte, quoi. Là, je suis rendez-vous avec un autre musée à peu près semblable au nôtre. Nous, on s'est occupé particulièrement, je dirais, des années 1850 à 1914, même si on a un peu débordé, hein, et largement débordé. Eux s'occupent plutôt de la période d'entre-deux-guerres. Alors, il y a beaucoup de machinisme agricole, une petite maison. C'est là où on a une petite maison à côté, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, le domaine, comme on dit, où on a une reconstitution d'un intérieur des années 1850, disons en gros.
Et c'est quelle association ?
Le petit village de Chassignolles. Et là, c'est la municipalité qui a pris en charge tout ça. Ils ont fait construire un hangar plus moderne à côté d'une vieille maison, il y a tout un espace. Mais ils s'aperçoivent, comme nous, qu'il y a de moins en moins de fréquentation. Donc il y avait pendant plusieurs semaines une réflexion à laquelle on était conviés, mais où on n'a pas toujours pu aller, pour réfléchir à des changements possibles, à une vision un peu différente pour amener les gens à ce lieu et à ce qu'ils repartent, je dirais, enrichis. Voilà, donc aujourd'hui je vais aller profiter de l'avancement des travaux pour voir ce qu'on peut en tirer aussi pour nous, voir si on peut leur apporter... notre expertise, n'est-ce pas? Et comment on pourrait se les renvoyer les uns les autres? C'est deux associations un peu semblables. Là-bas, il y a la municipalité plus une association. L'association s'appuyant sur la municipalité.
Il y a un musée ouvert au public?
Oui, 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 que tu peux visiter. Qui a ses richesses aussi. Qui a encore, à travers par exemple François Nock, le vieux paysan, âgé aujourd'hui de 85 ou 6, peut-être bien François maintenant, qui a été à l'initiative de ça, parce que c'était aussi son métier et sa jeunesse qui partait, donc avec quelques vieux copains paysans, ils ont fait ça. Ils font une manifestation annuelle au mois de juillet qui rassemble pas mal de gens, mais de moins en moins, parce que c'est pareil, tous les gens qui ont passé cette vie à faire ce boulot de paysan disparaissent. Et donc, disparaissant, ben, ils peuvent plus être là pour montrer aux autres, donc ils se réduisent. Les jeunes, il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas forcément non plus cette connaissance et cette pratique. Ben, il y a la batteuse, on faisait les moissons, on conservait avec des chevaux, trois beaux chevaux menés par un homme qui les mène encore très bien à 80 balais passés, quoi. Mais il n'y a pas de relève ayant pratiqué réellement. Quand le père Chaumette mène ses trois chevaux, c'est magnifique, un tout petit bonhomme. Ça marche impeccablement. Et quand le jour où il sera plus là, il y a encore des gars qui mènent les chevaux, mais pas tout à fait de la même façon et pas tout à fait dans le même esprit. Le temps passe.
Voilà.
Ça va être la conclusion.
Après, ce qui est formidable, c'est que je passe l'hiver avec toi.
Ouais.
C'est que j'en ai pour un mois de montage après, donc comme ça, je repasse.
Mais je sais pas ce que tu vas pouvoir tirer de ça.
Ah si, super.
Si.